Nous voici en cette 15e rencontre du catéchisme pour adultes et nous reprenons cette méditation de la vie commune que le bon Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. Aristote, nous avons parlé de Platon la semaine dernière, et nous ne pouvons parler que de son élève Aristote, le grec, le stagirite, a donné une définition qui a été reprise notamment par saint Thomas d'Aquin, faisant de l'homme un animal politique. Et il est vrai, je vous l'avais dit, que dans le mot politique, nous retrouvons le mot grec polis, qui désigne la cité. L'homme est un animal politique, ça nous dit bien cette vie commune, l'organisation de la famille, l'organisation de l'ensemble des familles, qui dans le monde grec forme une cité, saint Thomas d'Aquin parlera du royaume, et nous voyons alors combien cette réalité naturelle est de la famille, et puis de, comment faudrait-il l'appeler, la nation peut-être, avec en son sein l'État comme instance d'autorité et de régulation, fait partie de cette vie que nous avons à mener ici-bas. Cette vie commune fait que nous devons répondre à des besoins. Je l'ai dit la semaine dernière, l'homme n'est pas seulement fait pour survivre, l'homme est fait pour vivre, mais surtout, question avec laquelle naît la philosophie, il faut bien vivre. Quelle vie vaut donc la peine d'être vécue? Car on se rend compte dans le monde grec qu'il faut beaucoup peiner au sens de souffrir, il faut beaucoup donner également pour parvenir à cette vie bonne, à cette vie morale. De telle sorte que les Grecs considéraient déjà qu'avant de faire de la philosophie, avant de pouvoir penser, avant même de pouvoir penser aux choses de Dieu, il faut tout de même un certain confort matériel. C'était très perceptible dans la façon dont les Grecs organisaient la cité. Il y avait ce que l'on appelait les esclaves. Alors les esclaves, ce ne sont pas les esclaves comme il y aura dans la traite négrière bien plus tard dans les siècles. L'esclave, dans la tradition grecque, si vous voulez, ça peut être les artisans, les gens qui doivent travailler pour vivre. Le citoyen libre de la Grèce antique est plus, si vous voulez, le propriétaire d'une maison, c'est-à-dire d'un domaine, et qui peut, si vous voulez, ainsi avoir une vie qui est une vie de loisir. Mais ce loisir n'est pas forcément l'oisiveté dans l'excellence grecque de cette vie, ça va être au contraire une vie dans laquelle il va être un citoyen libre. Pourquoi ? Parce qu'il est libéré de tout ce travail, de tout ce qu'il doit faire. Il peut vivre et du coup, en ayant un certain confort, il peut penser. Pourquoi suis-je dans le monde ? Comment faire ? Quand vous avez faim, quand pour chaque jour il faut se battre pour survivre, on avait autre chose à faire, si vous voulez, que de penser, le monde est beau, pourquoi suis-je sur la terre ? Qui est Dieu ? Qu'est-ce que je veux ? Donc vous voyez déjà qu'il va falloir un certain nombre de choses pour pouvoir aussi arriver à ce que les Grecs appelaient cette vie de citoyen libre. Alors l'esclave, l'homme libre, l'homme libre participe à la vie de sa cité, il a le droit de vote, que n'ont pas les esclaves. Alors c'est avec cela, si vous voulez, que va naître ce qu'on va appeler la démocratie en Grèce, une démocratie qui vise à la fois à avoir le bien commun et qui a comme bon sens premier, si vous voulez, l'idée de l'autarcie. Il faut quand même s'efforcer dans la cité que nous formons, de pouvoir subvenir à tous nos besoins. Parce qu'on constate qu'il n'est impossible, Platon le dira ainsi dans sa cité idéale, il est absolument impossible de mettre une cité à un endroit où il y aurait tout ce qu'il faut. Il y aura aussi des commerces et des échanges avec les autres cités, parce qu'il y en a qui seront peut-être des cités où il y aura des minéraux, où il y aura du fer, où il y aura des choses. D'autres seront plus dans des plaines où il y aura beaucoup plus de culture. Donc du coup, ensuite, vous voyez bien que dès qu'on commence à penser à cette vie commune, on voit que finalement tout est commun et qu'une fois encore, même dans la réalité de la cité, nous avons besoin également d'autres cités pour pouvoir ainsi parvenir à cette vie bonne et équilibrée. Je rappelle que si le bon Dieu a voulu pour nous la vie commune, c'est tout d'abord parce qu'il appartient à la dignité de la créature spirituelle qu'est l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il appartient à sa dignité que de parfaire le monde. De même, si le bon Dieu n'a pas créé des hommes égaux du point de vue des dons, des talents, des capacités, c'est aussi parce que celui qui a reçu va devoir donner, non pas seulement pour lui-même, pas seulement pour sa famille, il va devoir participer au bien commun. Le Seigneur le dit dans l'Évangile, celui à qui on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. C'est également ce que le Seigneur nous enseigne dans la parabole des talents. Nous avons à faire fructifier tous ces talents que Dieu nous a donnés pour les mettre au service du bien commun. Et là, nous comprenons à nouveau que nous ne sommes pas non seulement des individus déracinés, quelqu'un qui vivrait seul, ce n'est pas possible, mais que nous avons une mission ici-bas, celle de former une communauté. Dans cette vie commune, il y a la recherche donc de ce bien commun pour parvenir à ce qu'Aristote appelle, et saint Thomas le reprend, la félicité commune. Voilà, on cherche quand même le bonheur de vivre ensemble, ici-bas, avec une phrase qui était marquée sur les frontons du temple de Delphes. Il y a bien sûr le « connais-toi toi-même » ou le « connais-toi une âme », mais il y avait aussi cette phrase qui est très importante dans le monde grec, « rien de trop ». Rien de trop. Ça montre bien la recherche du juste équilibre. Et ceux qui doivent gouverner, eh bien, doivent être motivés par ce rien de trop. Trouver le juste équilibre, c'est en philosophie politique ce qu'on appelle la problématique de la justice. Non seulement nous devons être ajustés à Dieu, mais nous devons également être ajustés les uns aux autres, ajustés dans le monde du travail. Il faut parvenir à cet équilibre. L'Église, par exemple, on a parlé de Léon XIII dans une encyclique fameuse de, je crois, 1891, Rerum Novarum, sur la question ouvrière, va développer, par exemple, la problématique du juste salaire. Hein, saint Paul nous le dit, hein, tout travail mérite salaire, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus, nous dit l'apôtre, dénonçant, c'est une très belle définition, ceux qui sont affairés sans rien faire. Parce que l'on peut être affairé et finalement ne rien faire pour autant. Eh bien voilà que saint Paul nous dit, pour travailler, eh bien, il va falloir travailler et puis il va falloir aussi être rémunéré parce que notre famille compte également, eh bien, sur le père, la mère de famille pour subvenir aux besoins des enfants et plus largement de la maisonnée. On voit bien tout cet équilibre de cette cité. Je vous ai déjà eu l'occasion de vous dire, quand Platon forme la cité idéale, il va, c'est un païen, hein, dire qu'il va falloir mettre Apollon ombilique au centre de la cité. Alors Apollon, c'est le dieu, on pourrait dire de la beauté, mais mieux de l'harmonie. Il est représenté avec la lyre musicale, la musique est très importante dans le monde grec, c'est pas simplement la musique pour danser, ça veut juste dire qu'on doit rechercher l'harmonie. Le monde grec est un monde de l'harmonie, puisque dans le monde grec, l'idée de création n'existe pas. Il y a le démiurge qui a façonné quelque chose qui était préexistant, nous avions vu ça quand nous avons parlé de la théologie de la création. Et nous passons alors du chaos, du monde désorganisé, au cosmos, qui est le monde parfaitement organisé. Et dans la problématique grecque, le monde ainsi parfaitement organisé a en son cœur la cité. Platon nous dit, nous allons mettre donc dans la cité idéale Apollon ombilique, ombilique, ombilical nous désigne l'ombril, pardon, c'est Apollon qui a son nombril, qui a de son nombril, hein, il est comme enraciné au cœur de la cité. Pour un grec, si vous voulez, c'était déjà presque une offense, surtout pour un grec, parce que c'était Athéna qui était la déesse de la cité, et Platon y préfère Apollon ombilique pour bien montrer justement que c'est l'harmonie qui va devoir présider, hein, à l'élaboration d'une société juste et à un cosmos. Voilà. Donc c'est intéressant en régime chrétien d'avoir cela en tête. Le Seigneur, voilà, nous parle bien en nous affirmant que notre cité, elle se trouve dans les cieux. C'est vraiment la vie éternelle. C'est en ce titre que saint Paul dira qu'il est citoyen du monde. Mais nous appartenons quand même chacun à une nation, à une cité qui a son histoire, qui a sa culture, qui a aussi une histoire sainte avec le bon Dieu. Si le bon Dieu nous connaît chacun en particulier, il a également une connaissance de la vue d'ensemble. Il y a, pour le bon Dieu, la France. Il y a ainsi une forme d'équation, je crois l'avoir déjà dit à l'occasion, c'est Aristote qui dit ceci, le tout est plus que la somme des parties. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ben oui, la France pourrait être réduite à un ensemble de familles, mais il nous dit attention, le tout, quand nous considérons la France, par exemple, c'est bien plus que la somme des parties. Il y a un quelque chose qui fait que la France peut être devant Dieu. Et lorsque je dis cela, il ne faut pas oublier deux choses. Si on prend la perspective eschatologique du jugement, il y aura notre jugement particulier, Mais il y aura également au jugement dernier, le jugement des nations, le jugement des institutions, puisque toute autorité vient de Dieu, ils auront à rendre compte de la gestion de cette autorité. Ont-ils usé d'autorité pour eux-mêmes, pour leur profit, pour leur richesse? C'est le régime que nous appelons l'oligarchie. Se seront-ils efforcés de parvenir au bien commun, de soutenir les peuples, particulièrement ceux qui sont plus éprouvés? Voilà tout ce qu'il y aura, rien n'échappera au jugement final. Jugement particulier, c'est moi-même qui parais face à Dieu et qui suis jugé sur l'amour. Et puis, il y aura le jugement dernier, aussi ce jugement des nations. Je vous rappelle, je crois que nous l'avions vu, je ne sais plus entre ce que je lis et ce que je vous dis, il y a également dans les Saintes Écritures, si nous l'avons vu, l'idée aussi que les rois, les gouvernants, seront plus sévèrement jugés sur tout cela parce qu'ils ont leur autorité est mise au service du peuple qui leur est confié, peuple qui appartient toujours, de toute façon, en définitive, au bon Dieu. L'autorité que nous exerçons, qu'elle soit celle du père de famille, de l'instituteur, du prêtre, eh bien, nous aurons à rendre compte de cette autorité, car l'autorité doit être au service du bien commun. Alors, j'ai eu l'occasion de dire, et c'est ce que je voudrais que l'on approfondisse un peu aujourd'hui, qu'il y avait un unique ordo naturel et surnaturel. Nous avons déjà parlé un peu de ça en termes différents. Il y a le bien commun de cette communauté que nous formons ici-bas, la félicité commune, mais nous ne sommes pas seulement faits pour ce bien matériel ici-bas sur la terre. Dieu nous appelle à une fin surnaturelle qui dépasse les capacités de nos bras et qui est la vie de la grâce, qui est la vie éternelle en paradis que nous avons appelée dans ce catéchisme la béatitude. Nous ne sommes pas simplement faits pour le bonheur de ce monde, bonheur bien illusoire, nous sommes faits pour le bonheur éternel en paradis. Et en bon bigourdant, nous réentendons Notre-Dame de Lourdes dire à Bernadette, le 18 février 1858, je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Non pas un bonheur éphémère ici-bas, le bonheur éternel, et nous savons que nous ne sommes que de passage ici-bas, raison pour laquelle nous devons mettre tous nos efforts à perfectionner ce monde, c'est la dignité de créature. Lorsque le bon Dieu a créé le monde, nous n'avons peut-être pas encore assez parlé de cette problématique, Dieu le fait librement. C'est aussi une des définitions de Dieu, Dieu est libre, il est profondément libre. Et lorsque l'archange Gabriel dit à la Sainte Vierge « rien n'est impossible à Dieu », vous voyez que sa liberté, la liberté divine est totale. C'est une liberté d'amour, une liberté qui vise le bien. La dignité de créature dont je viens de parler, du fait qu'il faut parfaire l'univers, ça fait partie de ce que le bon Dieu attend de nous, eh bien, elle s'accompagne de la liberté. La liberté que Dieu nous donne nous permet, si vous voulez, de pouvoir l'aimer, parce que l'amour suppose la liberté. Plus je vais forcer Pierrette à aimer Pierre, qu'elle n'aime pas, du moins pas comme Pierre voudrait que être aimé de Pierrette, eh bien plus il va essayer de la forcer, eh bien plus ça va développer en elle l'effet inverse. L'amour suppose la liberté. Dieu nous laisse la liberté comme condition de l'amour. S'il nous avait, si vous voulez, comment pourrions-nous dire, s'il nous avait déjà forcer un petit peu à l'aimer, si vous voulez, en nous donnant cet amour déjà là, ben non, il faut que nous puissions répondre librement à l'amour de Dieu. Donc Dieu a tout créé librement, c'est-à-dire il n'était pas tenu de créer le monde par aucune contingence que ce soit, il est profondément libre. Pourquoi crée-t-il ? Nous l'avons vu, parce qu'il est dans la nature de l'amour de se donner, parce qu'il est dans la nature du bien de se communiquer. Et nous avons vraiment considéré combien cette bonté de Dieu, conjugaison de l'amour et du bien, marque profondément la création, doit se retrouver au cœur même de la vie commune, mais que nous sommes appelés par la grâce eh bien, à un amour et à un bien, à une bonté divine qui, elle, nous attend en paradis. Dieu veut faire de nous des fils. De telle sorte que Dieu ne laisse pas d'un côté les réalités naturelles à elles-mêmes, mais qu'il y a également cette autre communauté surnaturelle que nous appelons l'Église, qui est cette communauté des fidèles croyants qui, à la suite du Christ, vit ici-bas, témoigne de la bonne nouvelle du Christ venu à notre secours, mort et ressuscité pour notamment le pardon de nos péchés. Voilà que Dieu veut faire de nous des fils, hein, et bien cette filiation divine, elle s'opère ici-bas sur la terre. Nous savons que si Dieu crée librement et par amour, eh bien nous avons à répondre à cet amour de Dieu par l'amour sincère de nos âmes, mais également en manifestant combien nous aimons Dieu dans l'amour du prochain. C'est ce que le Seigneur dit bien aux apôtres, un peu interloqués. Nous connaissons bien cette déclaration du Seigneur, hein, aux apôtres. « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, en prison, vous m'avez visité. » Et les apôtres, regardant le Seigneur un peu éberlué, « Mais quand est-ce, Seigneur, que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, malade ou en prison ?» Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Si nous sommes ici-bas sur la terre, c'est pour aimer, connaître et servir le bon Dieu. Aimer et connaître le bon Dieu et le servir. Servir Dieu dans l'office divin, en priant, en unissant notre âme au Dieu trois fois saint, en recevant sa grâce, en vivant des sacrements. Mais nous avons aussi à reconnaître le Christ dans les pauvres. Voilà comment notre foi nous permet aussi de nous perfectionner ici-bas. Nous entendons également l'apôtre Pierre nous dire que si Dieu permet l'épreuve, c'est pour vérifier la qualité de notre foi. Et donc nous avons, en ayant la foi ici-bas, à avoir un regard qui permet de considérer les pauvretés de ce monde comme aller à la rencontre du Christ. C'est bien ce que le Seigneur illustre dans la parabole du bon samaritain. Nous avons comme ça à aider, nous avons à être providents, c'est-à-dire à porter une assistance à telle personne dans le besoin, dans la nécessité, comme Dieu lui pourvoit à nos besoins. Lorsqu'il nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », c'est aussi à cet amour-là qui nous pousse. Et nous savons dans l'Église bien que nous devons nous donner comme ça, par amour de Dieu, à l'amour du prochain. Voyez comment déjà tout cela ne sont pas l'ordre naturel et l'ordre surnaturel de réalité complètement séparées. Non, elles sont profondément emboîtées les unes aux autres. Nous parlons de l'unique ordo naturel et surnaturel. Dans des éléments de langage, on vient à distinguer l'ordre naturel de l'ordre surnaturel pour voir comment les liens vont s'opérer entre l'Église et le monde, puis entre l'Église surtout et tel État, parce que l'Église est présente sur tous les continents. Il y a des rapports avec des états très différents, avec des peuples aussi très différents de par leur culture. Bien, nous voyons en tous les cas qu'il y a cette réalité naturelle et que nous sommes faits pour la vie éternelle en paradis et que cette vie commune ici-bas doit être le lieu de notre sanctification, doit être le lieu de l'évangélisation où nous apportons la bonne nouvelle, doit être le lieu où nous témoignons de la foi, de l'espérance, c'est-à-dire du fait que nous attendons d'être en présence de Dieu et de cette charité qui est la plus grande des vertus théologales, c'est Dieu qui nous met cet amour que nous avons à manifester aux autres, eh bien, par amour de Dieu, pour l'amour du prochain. Voilà comment nous sommes envoyés dans le monde. Cela pour bien comprendre que la vie commune ici-bas, c'est pas attendre que le bon Dieu nous rappelle à nous en nous enfermant dans les églises et dans notre vie de prière, c'est que chaque fois que la messe est finie, nous sommes envoyés. Envoyés à la rencontre du Christ à travers les pauvres, envoyés auprès du Christ, pour porter ce témoignage de bonne nouvelle, là où nous sommes envoyés dans notre vie toute quotidienne. Nous avions lu la semaine dernière quelques citations du pape Léon XIII et du pape Jean XXIII pour comprendre un peu comment fonctionne, pouvons-nous dire, cette double réalité. C'est ce que je voulais approfondir un peu aujourd'hui. Je vais trouver la bonne page. Voilà, nous avions lu Mater et Magistra. Alors, je vous lis une première citation de cette encyclique dont j'ai parlé, Rerum Novarum, sur la question sociale, sur la question ouvrière, une jolie citation de Léon XIII. Non, c'est dans Immortale Dei, peut-être, enfin, l'une des deux. « Tous, tant que nous sommes nés et élevés en vue d'un bien suprême et final auquel il faut tout rapporter. » Placé qu'il est aux cieux, au-delà de cette fragile et courte existence. Puisque c'est de cela que dépend la complète et parfaite félicité des hommes, il est de l'intérêt suprême de chacun d'atteindre cette fin. Le pape Léon XIII nous rappelle ici, dans Immortale Dei, une autre de ses encycliques politiques, que nous ne sommes pas simplement là de passage en attendant, mais c'est que nous devons, dès ici-bas, nous élever au lieu de la félicité, non pas simplement la félicité commune, qui est la finalité de la raison pour laquelle nous vivons en communauté ici-bas, mais déjà dans la perspective du ciel. Je relis cette citation. Nous sommes nés et élevés en vue d'un bien suprême et final. La communauté que nous formons ici-bas, la communauté politique, la communauté nationale, pourrions-nous dire, elle ne vise pas forcément le bien suprême et final, elle vise le bien de l'État. Et c'est déjà beaucoup. Hein, et notre État a été révélé entre la crise du Covid et maintenant les guerres, combien finalement nous ne sommes plus capables, si vous voulez, dans un pays, d'avoir une souveraineté alimentaire, une souveraineté médicale, qu'avec cette grande idéologie du mondialisme, on pensait que parce que nous serions tous des pays interdépendants pour certaines choses, qu'il n'y aurait plus de possibilité qu'il y ait la guerre, car tout le monde aurait intérêt économique à avoir la paix. Bon, ben on voit bien qu'une fois encore, c'est se mettre profondément le doigt dans l'œil, mais que nous avons, justement, chaque nation doit viser cela. Pourquoi elle doit le viser ? Mais pour le bien de son peuple. Parce que l'agriculture, eh bien, elle est... il va y avoir, bien sûr, des techniques, il va y avoir des engrais, il va y avoir beaucoup de choses, mais il y a quand même une chose à prendre en compte, c'est aussi la météorologie. L'homme n'est pas le maître du ciel et de la terre. Donc du coup, il y aura des années, hein, comme on pourrait reprendre le songe de Joseph, des années de vaches grasses, et puis il y a des années de vaches maigres. Et que l'État doit penser à toutes ses réserves. Et je donne là un exemple alimentaire, mais c'est vrai sur l'ensemble du territoire. Nous avons quand même à rechercher cette souveraineté, parce que le bon Dieu n'a pas voulu, si vous voulez, qu'il y ait un gouvernement qui soit le gouvernement de l'ensemble de l'univers. Il a voulu que chacun, nous soyons renvoyés parmi les peuples. D'ailleurs, pour se révéler, il choisira un peuple entre tous pour être porteur de l'alliance, de manifester que Dieu est l'unique, que Dieu est éternel, que Dieu va envoyer un Messie pour venir sauver non pas le peuple qu'il a choisi, le peuple élu, juif, mais l'ensemble des peuples de la terre, le genre humain lui-même. Vous voyez que toutes ces réalités, elles sont profondément marquées dans l'histoire sainte. Avant d'aborder l'histoire sainte d'Israël, je voulais justement que nous ayons cette idée politique pour bien comprendre que nous sommes vraiment unis ici-bas sur la terre. Donc là, le pape nous le dit bien, nous sommes nés et élevés ici-bas en vue d'un bien qui dépasse simplement le bien de ma petite existence. Et le drame aujourd'hui, c'est que dans les âmes, c'est éteint pour beaucoup l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'espérance, la charité. Pourquoi ? Parce qu'on a préféré se détourner des réalités spirituelles pour se tourner vers les réalités matérielles avec le matérialisme que nous connaissons aujourd'hui. Donc, nous dit Léon XIII, né et élevé en vue d'un bien suprême et final auquel il faut tout rapporter, placé qu'il est aux cieux, au-delà de cette fragile et courte existence. Ça, c'est bien ce que nous réalisons en passant, je crois, de l'enfance à l'âge adulte, en connaissant des deuils, même en étant enfant, c'est que la vie ici-bas, eh bien, elle est fragile et elle est courte. Et le Seigneur nous le dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. À quoi nous invite-t-il ? À être prêts, à veiller, à prier, à être comme les vierges sages de l'Évangile, à attendre le retour de l'Époux. Avec nos lampes allumées, image d'une âme qui vit de la lumière de Dieu. Donc, on avait déjà là une première... nous avons donc à viser le parfait accomplissement de la félicité humaine, mais du coup, on comprend bien que c'est une mise en perspective et que ce n'est pas simplement un bonheur humain d'un instant, mais que c'est le bonheur éternel qui est promis. Je relis maintenant de Rerum Novarum une autre citation de Léon XIII. « Nul ne saurait avoir, nous dit le pape, une intelligence vraie de la vie mortelle, ni l'estimer à sa juste valeur, s'il ne s'élève jusqu'à la considération de cette autre vie qui est immortelle. Celle-ci supprimée, toute espèce et toute vraie notion de bien disparaît. Bien plus, l'univers entier devient un impénétrable mystère. Quand nous aurons quitté cette vie, alors seulement nous commencerons à vivre. Cette vérité qui nous est enseignée par la nature elle-même est un dogme chrétien. Sur lui repose comme son premier fondement tout l'ensemble de la religion. Non, Dieu ne nous a point fait pour ces choses fragile et caduque, mais pour les choses célestes et éternelles, il nous a donné cette terre, non point comme une demeure fixe, mais comme un lieu d'exil. Vous voyez ce que je trouve admirable dans ces citations de Léon XIII et de quelques autres papes, c'est de voir comment il y a la clarté, comment on nous dit véritablement les choses. Nous vivons à une époque de confusion dans l'Église parce que l'Église est attaquée par la mère déchaînée de ce monde. On entend tellement de choses un peu diverses. Bien là, nous avons le pape Léon XIII qui nous dit avec beaucoup de clarté que nous ne vivons pas simplement pour la vie d'ici-bas. C'est vraiment se leurrer que de croire cela, non seulement parce qu'on n'emporte aucune richesse au ciel, parce que voilà, cette vie est passagère, mais le bon Dieu, qui est le bien, mais le bien suprême, il ne nous a pas donné simplement à goûter quelques biens ici-bas. Non, il nous les donne à goûter juste pour que nous puissions prétendre à la vie éternelle. Alors, quand on voit ainsi qu'on passe d'un monde à l'autre, je vous avais dit pour Platon, c'était deux petits mots très simples. Il nous parle toujours de l'ici et du là-bas. Alors ici, c'est la vie de la cité. Le là-bas, c'est le monde des idées. Alors, il n'existe pas un monde des idées. Je n'ai pas rentré dans la philosophie de Platon, mais on comprend bien ce mouvement qui est celui de Platon en disant, bien, il faut d'abord avoir les yeux fixés sur le monde des idées, sur le là-haut, en régime chrétien, nous dirions sur la cité éternelle, sur le royaume des cieux. Comment le connaissons-nous, ce royaume des cieux? Notamment parce que le Seigneur Jésus nous donne l'esprit des béatitudes. Et oui, les béatitudes, c'est un peu comme la constitution du ciel, et il ne faut pas oublier surtout que le Seigneur Jésus est la personnification de chacune des béatitudes. Il est le bienheureux du Père. Donc, nous avons bien à avoir cette perspective. Je vis ici-bas, mais attention, cette vie est passagère, il y a la vie éternelle. Et le pape disait que c'est également une réalité naturelle, c'est-à-dire que tout homme, sauf l'homme peut-être désabusé et conduit au matérialisme aujourd'hui, qui n'a plus vraiment d'espérance et à qui toute transcendance est comme fermée, il est étouffé dans son humanité petite et étriquée, eh bien, mis à part cela, de toutes les époques et de toutes les civilisations, il y a eu cette idée de transcendance, que nous ne sommes pas simplement là pour être là, mais que nous sommes là ici-bas et que nous avons à prétendre à la vie éternelle. C'est un fait, si vous voulez, qui appartient à notre nature, cette religiosité naturelle de l'homme. Je vous avais peut-être dit à l'occasion que toute l'œuvre de Platon va être de contrecarrer ce qu'un sophiste, Protagoras, avait dénoncé. Pour Protagoras, l'homme est la mesure de toute chose. Mais là, vous comprenez bien ce que nous dit le pape Léon XIII. L'homme ne peut pas être la mesure de toute chose. Justement parce que l'homme sent en lui-même qu'il y a une démesure, qui n'est pas seulement la démesure de son orgueil, mais qu'il n'est pas simplement fait et prisonnier pour ce monde ici-bas passager. Il est appelé à une autre réalité, celle de la vie éternelle. Donc l'Église, dans cette perspective, elle va être là, si vous voulez, pour être la médiatrice. La médiatrice dans le monde dans lequel on est, parce que c'est dans ce monde que nous sommes appelés à nous sanctifier. C'est dans ce monde que nous pourrions perdre notre âme en préférant, par exemple, c'est l'exemple du Seigneur, préférer l'argent au bon Dieu. Alors dans le monde dans lequel on vit, je vous laisse penser ce que le monde a choisi. Alors l'Église, dans cette perspective, elle doit toujours veiller au bien de ses enfants, à réanimer la réalité du ciel et aussi à veiller à ce que les lois permettent la sanctification des fidèles et non pas leur faire commettre des péchés, leur faire risquer justement les peines de la vie, non pas de la vie éternelle, mais justement de la damnation éternelle. Alors du coup, l'Église, c'est un peu comme un service d'ordre. Alors non pas le service d'ordre des vigiles, mais elle est vigilante à toutes les lois, à tout ce qui se passe dans le monde. Le pape va pouvoir, par exemple, écrire une encyclique. C'est à partir surtout de Léon XIII qu'on a vraiment cette idée qu'il va falloir rediscuter avec le monde, exposer les différentes théories pour pouvoir faire réagir le monde et mieux vivre. Alors, les États, après, sont libres d'écouter ou ne pas écouter. Rappelez-vous la phrase de Staline, considérant la résistance que le pape menait. Combien de divisions? Aucune. Il n'a pas d'armée particulière. Quand les nazis vont entrer au Saint-Siège, c'est pas les gardes suisses avec leurs plumes qui ont pu faire le poids. Je ne dis pas ça méchamment parce que je connais des gardes suisses et je sais qu'ils sont quand même très bien formés. Mais il n'y a pas d'armée particulière parce que l'Église ne fonctionne pas à la manière du monde. Alors le pape Pie XI dans une encyclique qui commémore, parce qu'il y a une tradition depuis la popularité de l'encyclique Rerum Novarum du pape Léon XIII, bien des pontifes ont écrit des encycliques commémorant l'anniversaire de cette encyclique qui a profondément marqué le 19e siècle avec sa révolution industrielle. Donc là, l'encyclique s'appelle Quadragesimo Anno, 40 ans après. 40 ans après l'encyclique de Léon XIII. C'est une jolie citation aussi que nous allons approfondir du pape Pie XI. La loi morale, écrit-il, nous demande de poursuivre, dans les différents domaines entre lesquels se partage notre activité, les fins particulières que nous leur voyons imposées par la nature, ou plutôt par Dieu, l'auteur même de la nature, et de les subordonner toutes, harmonieusement combinées, à la fin suprême et dernière qu'elle assigne à tous nos efforts. Avant de poursuivre, je commente déjà un peu. La loi morale, oui, il va falloir agir dans ce monde. Et nous avons à poser des actes. Et poser des actes, eh bien, soit l'acte va être bon et vertueux, soit il va être moins bien, soit il va être profondément mauvais. Mais quand il nous dit ça, c'est des différents domaines dans lesquels se partage notre activité. Ben, la mère de famille, elle fait bien à manger. Si elle décide d'empoisonner ses enfants et son époux pour vivre enfin en paix avec son Jésus, ben, il y a quand même un problème. C'est pour ça que le pape nous dit, quelles que soient nos activités, les fins particulières que nous leur voyons imposées par la nature, plutôt par Dieu, précise-t-il, il faut les subordonner, c'est-à-dire ne jamais oublier que il y a la réalité du ciel. La mère de famille, pourquoi doit-elle être une bonne famille, une bonne mère de famille? Mais non seulement parce qu'elle aime ses enfants, parce qu'elle a reçu cet amour et cette vie qu'elle a pu transmettre de Dieu, et puis aussi parce qu'elle doit aussi, non pas simplement nourrir alimentairement parlant ses enfants, elle doit aussi les nourrir de la vie spirituelle en leur parlant du bon Dieu, en les faisant prier, en les éveillant aux choses d'en haut. Donc là, je prends cet exemple de vie de famille, mais c'est sur toutes les réalités. Chaque fois que nous posons des actes, que nous travaillons, que nous sommes dans le monde, nous ne devons pas, par exemple, oublier, c'est le travers de certains jeunes, alors il y a soit ceux qui ne veulent pas vraiment travailler et qui vivront sur le dos de l'État, ou ceux qui, au contraire, et nous le voyons aujourd'hui, des gens qui travaillent, mais attention, le travail n'est pas une fin en soi. Le travail doit venir apporter la dignité à la créature, parce qu'il y a de la dignité dans son travail, de la considération, le travail bien fait. Mais également, ne pas oublier que je ne travaille pas pour travailler, je travaille pour la vie éternelle. Alors, je ne vais pas cotiser comme pour la retraite pour la vie éternelle, c'est absolument pas de cela qu'il s'agit, mais c'est bien de dire, attention, ne vivez pas le travail pour le travail en étant comme des esclaves de ce travail, et on voit bien aujourd'hui des jeunes qui finalement se disent qu'ils ne peuvent pas suivre un tel rythme acharné de travail. Pourquoi ? Ben parce qu'ils ont oublié qu'on ne travaille pas pour travailler. C'est qu'on travaille en vue de la vie éternelle, quel que soit d'ailleurs notre travail. Donc là, le pape nous dit, attention, il faut que tout soit harmonieusement combiné à la fin suprême et dernière, hein, que le bon Dieu a assigné à tous nos efforts. Le pape poursuit. Du fidèle accomplissement de cette loi, il résultera que tous les buts particuliers poursuivis, soit par les individus, soit par la société, s'harmoniseront parfaitement dans l'ordre universel des fins et nous aideront efficacement à arriver, comme par degré, au terme suprême de toutes choses, Dieu, qui est pour lui-même et pour nous le souverain et l'inépuisable bien. Je vous avais dit, lorsque je vous avais parlé de la bonté avec laquelle le bon Dieu a créé l'univers, hein, il l'a fait en bonté, c'est-à-dire tout cela est bien, tout cela est bon, rappelons-nous comment l'Esprit Saint dans la Genèse, et Dieu vit que cela était bon, se réjouir de la bonté de Dieu, se réjouir de façon encore plus manifeste lors de la création de l'homme, et Dieu vit que cela était très bon, vraiment profondément marqué par la bonté de Dieu. Nous avons vu que, quelles que soient les différentes réalités, le monde minéral, les animaux, le monde végétal, tout le monde cherche l'accomplissement du bien pour lequel il a été créé. Eh bien voilà, le mystère de l'homme, c'est qu'il n'est pas simplement créé pour ce monde ici-bas, il est créé dans ce monde ici-bas pour prétendre à la vie éternelle. Je reprends une expression qu'avait dit Léon XIII tout à l'heure. Il avait parlé, à un moment donné, de l'exil, en disant que la vie ici-bas pouvait être pour nous comme un lieu d'exil. Alors exil, cela résonne à la suite du péché. Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre. Ils sont, à partir de là, comme exilés. Mais avant le péché originel, nous avions vu à l'école de saint Thomas d'Aquin qu'Adam et Ève sont créés en état de grâce, ils sont déjà graciés. Eh bien, pourquoi donc Dieu les a mis sur la terre ? pour que de cette terre, ils puissent parvenir comme par un tremplin à la vie éternelle. Dieu descend dans le jardin, certes, mais Adam et Ève sont appelés au terme de leur vie terrestre. Saint Augustin parle, c'est une hypothèse, comme d'une assomption d'Adam et Ève, quand le bon Dieu l'aurait décidé, pour parvenir ensuite au ciel. Donc ça veut dire que même Adam et Ève ne sont pas déjà créés en paradis éternel, tout va très bien. Non, ils sont déjà ici-bas sur la terre pour vivre, connaître, aimer, servir le bon Dieu, son œuvre de création, et pour prétendre à la vie éternelle en paradis. Le lieu de l'exil, pour nous, c'est que du coup le travail va devenir pénible. Et que, oui, parce que pour Adam et Ève, ça n'aurait pas été un travail pénible du point de vue physique, et bien tandis que nous, là, il va y avoir ce danger que le travail, et puis parfois l'amour tel du travail, qui fait qu'on pourrait perdre d'autres réalités. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont perdu cette réalité, quittent leur boulot, viennent élever quatre chèvres, je vois ça auprès de Bannière, pour essayer de retrouver un sens à leur vie. Parce qu'on comprend bien qu'on n'est pas fait que pour travailler comme ça. Il doit y avoir une perspective du ciel. Donc là, le pape Léon XIII nous parle bien de tout cela en nous disant que nous avons tout à rapporter à ce souverain bien qui n'est autre que le bon Dieu. Et donc l'Église, elle se trouve, si vous voulez, gardienne de la part de Dieu du bon fonctionnement, du bon ordonnancement du monde. C'est pourquoi elle veille, hein, comme une mère. Je vous rappelle, le pape Jean XXIII avait ouvert son encyclique « Mater et Magistra », hein, « Mère et maîtresse ». Voilà comment il définit l'Église. L'Église, elle est mère, donc du coup, elle a pour but d'enfanter des enfants. Mais ces enfants, il faut qu'ils gagnent la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle l'Église doit dénoncer également les problèmes qu'il y a dans le monde. Jean XXIII, je reprends une citation de Pacem in Terris, nous dit ceci « Les droits et les devoirs de l'Église ». Les droits et les devoirs de l'Église ne se limitent pas à sauvegarder l'intégrité de la doctrine concernant la foi ou les mœurs. Alors oui, l'Église, par le pontife, a un charisme d'infaillibilité en matière de foi et en matière de morale. Alors, ce n'est pas tous les matins quand le pape se lève, hein, il engage l'autorité du siège de Pierre, il est assisté, hein, le Christ lui dit « J'ai prié pour toi, Pierre, pour que ta foi ne défaille pas ». Alors, il y a les tempêtes du monde, mais il y a cette barque qui a quand même, hein, le Seigneur, même endormi dans la barque, qui est là, qui veille. Donc, les droits et les devoirs de l'Église ne se limitent pas à sauvegarder l'intégrité de la doctrine concernant la foi et les mœurs, mais son autorité auprès de ses fils s'étend aussi au domaine profane lorsqu'il s'agit de juger de l'application de cette doctrine au cas concret. Ben oui, le médecin qui va pratiquer sa médecine, ben, il va être au service de la vie. Il doit être au service de la vie. C'est bien le serment qu'il fait, hein, le serment d'Hippocrate. Il doit être au service de la vie. Ben, nous savons bien, quand même, en n'étant pas naïfs, que dans le monde dans lequel on est, hein, le monde même médical n'est pas qu'au service de la vie. Hein, et l'Église rappelle que l'on doit être au service de cette vie que nous avons reçue de Dieu dès le premier instant de la conception dans le ventre de la mère jusqu'à la mort naturelle. Et qu'il y a bien des façons de se débarrasser des gens. Donc du coup, alors l'Église, vous voyez, elle va par exemple examiner un certain nombre de pratiques. Une chose est d'endormir une personne pour ne pas qu'elle souffre pendant une opération, une autre est de faire en sorte qu'elle meure. Donc l'Église, là, elle ne va pas dire qu'elle ne va pas intervenir constamment dans tous les domaines, mais elle ne s'interdit pas d'intervenir sur certains domaines, même profanes, pour mettre en garde ses enfants. Hein, je parle à l'euthanasie, l'avortement, et tout un tas de choses qui sont déréglées. D'ailleurs, on le dit dans la tradition de l'Église, le monde est désordonné. Lorsqu'il n'y a plus cette réalité naturelle qui prétend à la vie surnaturelle en paradis, voilà qu'il y a un désordre. Nous vivons dans un monde profondément désordonné, puisque Dieu n'est plus la colonne vertébrale de notre vie ici-bas, mis de côté, soi-disant au profit du peuple, l'autorité viendrait du peuple, ne viendrait plus de Dieu, et en fait, sous cet esprit un peu démocratique, on voit bien aujourd'hui comment l'oligarchie peut venir manipuler tout cela. Donc l'Église, elle est là pour alerter ses enfants. Pourquoi ? Parce que le salut, il se gagne ici-bas sur la terre. Elle ne peut pas, si vous voulez, s'en désintéresser. Certes, nous précise le pape, les droits et les devoirs de l'Église, il faut sauvegarder l'intégrité de la doctrine. Le fidèle, en 2022, doit avoir l'assurance que la foi qu'il place dans le Christ est la foi éternelle du Christ et pas avec les adaptations du monde moderne d'aujourd'hui. Non, Nous voulons avoir la foi, nous voulons vivre de Jésus-Christ. Donc l'Église, elle doit veiller à l'intégrité de la foi, de sa doctrine, qu'on ne vienne pas la corrompre par des idées du monde, mais elle doit aussi veiller et dénoncer sur cette vie morale. Il faut bien vivre. Dans le monde que nous vivons, nous voyons que là, beaucoup de choses ont changé, finalement, en très peu de temps. Donc, l'Église peut donc intervenir en ayant toujours soin, eh bien, de guider ses enfants, car nous sommes appelés à vivre sur cette terre pour y vivre notre salut. Alors, je termine sur un point, c'est le pape Benoît XV qui dit ceci, parce que là j'ai parlé par exemple de loi morale. Nous vivons dans un monde moderne, et la modernité se caractérise aussi parce qu'on va, si vous voulez, distinguer le savoir. On va tellement distinguer les choses à l'époque moderne, à partir de la Renaissance et puis du XVIIe siècle, on va tellement, si vous voulez, à la fois faire des progrès dans les sciences. Parce qu'à l'époque, par exemple, médiévale, même à l'époque de Platon, le sage, le savant, c'est un homme qui a un savoir universel. Il y a un dialogue de Platon qui nous présente un homme qui s'appelle Hippias. Et Hippias, si vous voulez, c'est l'homme au savoir universel, parce que les vêtements qu'il porte, il se les a fait, la ceinture et les chaussures, il a su se les faire, et en même temps, il est capable de bien parler, il a des connaissances sur tous les domaines. Ça, c'est l'idéal, si vous voulez, de l'homme sage. Voilà, l'homme qui est à la fois capable de tout faire et qui est capable de tout comprendre. Mais une fois qu'on avance ainsi dans le monde de la connaissance, et que nous avons de plus en plus de connaissances, il est très difficile aujourd'hui d'être spécialiste dans tous les domaines. Nous pouvons voir que voilà, aujourd'hui, les progrès de la médecine, de telles choses font que même un spécialiste va être tellement spécialisé dans sa discipline, dans telle maladie à traiter, dans tel problème, qu'après il dira « Non, moi je suis spécialiste de ce domaine, je vous envoie pour tel problème le rhume des foins, ça ne me concerne pas, je suis cancérologue, je vous envoie au médecin traitant. » Vous voyez, il y a eu tellement de progrès que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui, le savoir est beaucoup plus fragmenté. Mais ce que nous avons perdu dans cette fragmentisation du savoir, c'est la vision du tout. Alors on a beaucoup de parties, mais on voit le tout. Je prends un autre exemple médical qui aura peut-être avec simplicité plus d'écho. Nous pouvons aller voir tel spécialiste pour qui nous pouvons être tel lombaire, parce que nous venons le voir pour tel problème, et bien du coup il nous regarde, non pas comme une personne ancienne, il regarde le problème, il est là pour soigner tel problème. Le problème, c'est que je ne suis pas qu'une lombaire. Et donc, du coup, le médecin généraliste, lui, il va devoir s'efforcer d'avoir la vision d'ensemble de notre santé. Voyez, l'époque moderne aujourd'hui, non seulement parce que le savoir a beaucoup augmenté, va se préciser à l'extrême et on perd justement l'unité. Eh bien, dans l'Église, on doit toujours veiller justement à ne pas perdre ce qui nous unit. Et cela est vrai parce que le monde, se fragmentant, a tendance à dire et à diviser une réalité identique. Morale et éthique. Morale, ça vient du latin. Éthique, ça vient de la racine grecque. C'est le même mot, équivalent. Mais on va appeler morale les questions de la vie privée, de la religion. Donc ça, c'est votre vie privée, c'est votre vie morale, vous vous en fichez. Du point de vue de l'État, il y aura une forme d'éthique qui est comme une morale qu'il faudrait avoir à l'extérieur. Voyez, alors on pourrait thématiser ça dans notre République, pas de signes religieux, pas de ci, pas de ça, etc. Et on oublie finalement que c'est du même homme qu'il s'agit. Et là, je termine avec cette citation de Benoît XV qui est très importante. Le pape nous dit, Benoît XV, « Il n'y a pas une loi morale qui concernerait la personne individuelle et la morale des États. Il s'agit de la même réalité. » Le pape nous dit ceci, « L'Évangile ne contient pas une loi de charité pour les individus et une autre loi différente de la première pour les cités et les nations, lesquelles en définitive ne sont autre chose que des groupements d'individus. » De telle sorte que toutes ces fragmentations de notre société aujourd'hui ne doivent pas faire perdre le fait que nous sommes chacun des personnes uniques et que nous avons une unité à chercher et à chérir. Je ne suis pas un chrétien le dimanche de telle heure à une autre, je ne suis pas simplement un patient montrant une lombaire à mon neurochirurgien, je ne suis pas simplement une mère de famille, je suis tout ça à la fois. Et je dois donc m'efforcer, en écoutant l'Évangile, de vivre de cette loi de charité à mon titre personnel, mais c'est aussi ce à quoi le monde est appelé.